Laudetur Jesus Christus.
Donald Trump met ses menaces à exécution. Des centaines de migrants ont déjà été expulsés des États-Unis, a annoncé ce matin la présidence américaine. Nous irons au Mexique, qui s'organise tant bien que mal pour accueillir un afflux de migrants. L'Église catholique américaine, comme les autres religieux, ne cache pas leur inquiétude. Après des mois de débats houleux, le Parlement irakien a adopté des amendements à la loi sur le statut de l'individu, avec pour conséquence la possibilité de marier des enfants dès 9 ans. Nous retrouverons notre correspondant à Bagdad. Ouverture ce vendredi du jubilé du monde de la communication au Vatican. Nous entendrons le témoignage de Sœur Daisy, une religieuse de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle nous partagera ses défis de communiquer pour l'Église. Et puis dans notre dossier ce matin, en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, notre invité, Monseigneur Yann Ernest. Il fut pendant 5 ans à Rome le représentant de l'archevêque de Canterbury près de Saint-Siège. Au moment de quitter ses fonctions, il revient sur ses années au service de l'écuménisme.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, le Mexique se prépare à un afflux de migrants renvoyés des États-Unis. Conséquence bien sûr de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Des centaines de migrants illégaux, criminels, ont été expulsés, annonce ce matin le service de presse du président. 538 personnes précisément. Dès son discours d'investiture lundi dernier, le républicain avait promis, je cite, de renvoyer des millions et des millions d'étrangers criminels là d'où ils viennent. Des déportations massives à venir que les autorités du Mexique essayent d'anticiper. Au mieux. À Mexico, Diego Calmar.
Des dizaines de tentes servant de refuge et pouvant accueillir 2500 à 3000 personnes ont été érigées le long de cette démarcation de plus de 3000 km avec les États-Unis. Le Mexique anticipe l'expulsion de milliers de Mexicains par l'administration du nouveau président américain Donald Trump. D'autres centres d'accueil en dur sont en cours d'habilitation en d'autres points de la frontière, a indiqué Claudia Sheinbaum hier. Face aux menaces de Trump, la présidente mexicaine a lancé le programme México te abraza, qu'il faut comprendre, le Mexique te reçoit les bras ouverts. Il y aurait 6 millions de Mexicains sans papier vivant aux États-Unis, en plus des 12 millions déjà installés de façon régulière. Pour les autres étrangers, la plupart sud et centra-américains qui ne peuvent plus entrer aux États-Unis, la présidente mexicaine a envisagé une assistance humanitaire et des rapatriements. Le Mexique est habitué, il y a de toute façon toujours eu des expulsions de la part des États-Unis, mais cette opération voulue par Trump ressemblerait à l'une des crises migratoires les plus importantes de ces dernières années. À Mexico, Diego Calmar pour Radio Vatican.
Et signe que la question migratoire aux États-Unis devrait faire l'objet de longues batailles judiciaires à venir. Un juge fédéral a suspendu temporairement la remise en cause du droit du sol ordonné par Donald Trump. Un ordre manifestement anticonstitutionnel, a-t-il précisé. Le président américain a fait appel. Cette mesure est également contestée par 22 États américains. Du côté de l'Église catholique, le président de la Conférence des évêques, Mgr Timothy Broglio, estime profondément troublant certains décrets signés par Donald Trump dès son arrivée à la Maison-Blanche, ce qui concerne en particulier le traitement des migrants et des réfugiés, l'aide au développement, l'extension de la peine de mort ou encore l'environnement. C'est la première visite du chef de la diplomatie saoudienne au Liban depuis près de 15 ans. Le prince Faisal Ben Farhan est depuis hier à Beyrouth. Une visite qui intervient après l'élection de Joseph Aoun à la présidence de la République et la désignation de Nawaf Salam pour former le futur gouvernement. Faisal Ben Farhan s'est dit confiant dans la capacité des nouvelles autorités à mener les réformes nécessaires afin de renforcer la stabilité et l'unité du Liban. En 2016, Riyad avait suspendu une aide de 3 milliards de dollars à l'armée libanaise, protestant contre l'influence du Hezbollah piloté par l'Iran. Après des mois de débats intenses et des levées de boucliers au sein de la société civile, le Parlement irakien a adopté des amendements à la loi sur le statut des individus. Concrètement, ils permettent désormais le mariage des fillettes dès l'âge de 9 ans. Les explications de notre correspondante à Bagdad, Anne-Sophie Lomouf.
Le nouveau texte conserve les dispositions de la loi de 1959, à savoir l'âge légal du mariage fixé à 18 ans et au minimum 15 ans, avec l'assentiment des tuteurs légaux et d'un juge. Toutefois, les amendements à la loi sur le statut de l'individu permettraient aux religieux de statuer sur les mariages en fonction de leur interprétation de la loi islamique. Parmi les soutiens de ces amendements, des musulmans chiites, partisans de la juridiction al-Jafari, qui rabaisse l'âge légal du mariage des jeunes filles à 9 ans. L'imam chiite Nour al-Sadi, chercheur en sciences islamiques et à l'origine de ces propositions d'amendement, affirme qu'à 9 ans, je cite, « la fille peut être mariée à condition que le corps soit mature ». Nous savons aussi, précise-t-il, que, médicalement parlant, le corps ne peut être mature à cet âge. Là est la raison pour laquelle la loi islamique offre un cadre plus large au mariage, dit-il. Le religieux assure que cette loi protège la famille. Selon l'UNICEF, 28% des filles en Irak sont mariées avant l'âge de 18 ans. 22% des mariages non enregistrés concernent des filles de moins de 14 ans. À Bagdad, Anne-Sophie Lemauve pour Radio Vatican.
L'ONU dénonce la situation désastreuse des droits humains au Bélarus alors que l'élection présidentielle s'y tiendra dimanche prochain. Selon les Nations Unies, le scrutin ne saurait être libre et équitable. Les dernières manifestations contre les fraudes électorales avaient été sévèrement réprimées en 2020 par le dictateur Alexandre Loukachenko. Le bras de fer se poursuit entre la Russie et le Royaume-Uni. En réponse aux accusations de Londres, Moscou a nié avoir jamais endommagé des câbles sous-marins. Mercredi, le ministre de la Défense britannique révélait qu'un navire espion russe était entré cette semaine dans la zone économique exclusive pour, selon lui, recueillir des renseignements sur les infrastructures vitales sous-marines du Royaume-Uni. L'OTAN va déployer des navires, avions et drones en réaction à ces dégradations de câbles, a annoncé son secrétaire général Mark Rutte. À Londres, les précisions de Jean Jaffré.
S'adressant aux députés, le ministre de la Défense britannique a déclaré avoir ordonné aux sous-marins de remonter en surface pour bien montrer, a-t-il souligné, que chaque mouvement du Yantar avait été secrètement surveillé. John Healey a accusé le président Poutine de menacer la sécurité européenne par des attaques contre des infrastructures transportant du pétrole, du gaz, de l'électricité, ainsi que des câbles de télécommunication. Plus de 95% du trafic Internet se fait par des câbles sous-marins. L'ambassade de Russie à Londres a rejeté vivement ces accusations, qualifiées d'invraisemblables. Ces sabotages se sont multipliés depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Par 3 fois, des câbles ont été endommagés en mer Baltique au cours des 18 derniers mois. Et un pétrolier russe, à Noël, a été endommagé par un câble avec son ancre entre l'Estonie et la Finlande. Une enquête est en cours. Un appareil de la Royal Air Force va rejoindre une escadrille de reconnaissance de l'OTAN afin de sécuriser des infrastructures vitales en mer Baltique. Londres, Jean Jaffré, Radio Vatican.
2 morts dans de nouvelles frappes de drones russes cette nuit non loin de Kiev. Elles ont visé un immeuble d'habitation et une maison selon l'administration militaire de la capitale ukrainienne. Un record de pollution de l'air à Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Plus de 350 écoles ont fermé leurs portes ce vendredi et la plupart des transports en commun sont gratuits pendant une semaine. Le ministre de l'Intérieur thaïlandais a ordonné l'interdiction du brûlage des chaumes, c'est-à-dire de l'incinération des restes des récoltes pour nettoyer les champs, et ce sous peine de poursuites judiciaires. C'est aujourd'hui vendredi que débute le jubilé du monde de la communication, premier jubilé thématique de l'année sainte. Le message du pape aux journalistes, communicants et éditeurs sera rendu public aujourd'hui et divers événements sont organisés jusqu'à mardi prochain au Vatican. Une messe présidée par le Saint-Père aura lieu pour l'occasion dimanche, ce dimanche de la parole de Dieu dans la basilique Saint-Pierre. Parmi les pèlerins communicants venus à Rome ces jours-ci figure une religieuse augustinienne venue des Antipodes. Sœur Daisy Lisania est responsable de la communication de la conférence épiscopale de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est elle qui avait accueilli les dizaines de journalistes venus en Papouasie au mois de septembre dernier pour le voyage apostolique du pape François. Sœur Daisy nous explique l'importance et le défi de la communication pour l'Église dans un contexte océanien très différent des pays occidentaux.
Dans mon pays, les journalistes séculiers traitent des histoires et des informations sans l'approche intégrale du développement de la personne humaine. Et c'est une grande différence avec la vision de la communication de l'Église. Pour ma part, si j'écris à propos des violences domestiques, par exemple, je dois aussi écrire quelque chose de positif, quelque chose qui puisse changer la vie des victimes. Aujourd'hui, lorsque nous nous sommes rendus au musée de la radio du Vatican, j'ai été sidérée de voir à quel point l'Église a maintenu sa communication depuis son début. Je voudrais demander à nos dirigeants dans l'Église, à nos évêques et à nos prêtres de mettre l'accent sur la communication dans l'Église, en particulier dans les diocèses, dans les périphéries, dans les différentes îles. Il faut réussir à joindre les gens partout. Vous savez, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la communication est décisive. La radio et les journaux sont ce qu'il y a de plus important. Mon défi, c'est donc de faire en sorte que la communication soit considérée comme importante dans l'Église.
Des propos recueillis par Delphine Allais. Faire. Et pour tout savoir sur ce jubilé de la communication et le message du pape, ce sera retrouvé sur notre site vaticannews.va. Il fera 17h ce soir ses adieux à Rome et à ses frères dans la foi lors d'une célébration à la basilique Saint-Paul hors les murs à la fin des vêpres, des secondes vêpres qui présidera François, qui marque la fin de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Monseigneur Yann Ernest regagnera bientôt sa terre natale, l'île Maurice, dont il fut l'évêque anglican pendant 18 ans, en raison sans doute de liens étroits remontant à l'enfance avec le catholicisme et de sa proximité avec le cardinal Pia, l'évêque catholique de Port-Louis. Monseigneur Justin Welby, alors archevêque de Canterbury, en avait fait son représentant personnel près le Saint-Siège et le directeur du centre anglican de Rome. Ce matin, à notre micro, Monseigneur Ernest revient sur ses 5 années romaines consacrées à accomplir la volonté du Christ, que tous soient un.
En venant à Rome, j'ai appris à comprendre que l'unité des chrétiens, ce n'est pas un idéal à contempler, mais c'est un ministère à vivre. Tout d'abord, il y a la rencontre. Et ce n'est pas la différence qu'incarne l'autre qui est essentielle, mais ce que l'autre est en tant que personne. Et l'autre est en tant que croyant, partageant la même foi que moi. Et comment arriver à découvrir cette personne qui a une même passion que moi concernant ce Dieu révélé en Jésus-Christ et dont aujourd'hui nous sommes appelés à porter ce Christ présent dans le monde.
Vous avez développé des liens privilégiés, personnels, avec le pape, mais aussi comme représentant de la communion anglicaine, avec le souci de collaborer, catholiques et anglicans, pour faire la volonté de Dieu. Et on en a vu un exemple quand le pape et l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, se sont rendus au Soudan du Sud.
Ce n'est pas un écuménisme naïf, parce que c'est un écuménisme qui demande une forme de collaboration, chacun apportant ce qu'il possède, ses dons, sa connaissance, son expérience. C'est de là que j'ai compris que cette mission qui était la mienne, c'était de vivre cette prière du Christ au cœur de mes responsabilités. Et cela a porté que plusieurs cardinaux, y compris le secrétaire d'État, sont venus prêcher ici. Nous avons une célébration eucharistique chaque mardi. Et depuis ces 5 dernières années, nous avons eu des prélats de l'Église catholique, des autres confessions chrétiennes. Nous avons travaillé avec d'autres institutions. Ces rencontres se sont multipliées pour donner à cette prière du Christ tout un sens. C'est se renier soi-même pour faire de la place à l'autre. Ça n'a pas été sans difficulté. Mais les obstacles sont là pour vous faire progresser. C'est dans la patience, dans l'endurance, comme le dit saint Paul, que nous puissions continuer la route, eh bien, ce n'est pas terminé. Le centre anglican, ce n'est pas moi. Nous ne sommes que de passage.
Le rapprochement entre anglicans et catholiques, évidemment, se poursuivra après votre départ, mais en vous entendant, on a quand même l'impression d'un alignement vraiment sur le discours de la fraternité et de la solidarité entre les perspectives qui sont celles de François et celles que vous représentez.
Oui, ce n'est pas un discours, c'est une vie dont j'ai fait l'expérience. J'ai eu l'occasion, au cours des années préparant le synode avec le cardinal Crutch, avec la sœur Nathalie Becker, avoir beaucoup de moments de partage qui nous ont permis de comprendre que l'Église ne s'arrête pas simplement à être porteuse d'un enseignement fondé sur des doctrines, mais l'Église doit être porteuse de la bonne nouvelle du Christ qui transforme les mentalités. Et je pense que le synode essaye d'apporter cette graine. Et c'est là que moi, je dirais, j'ai vécu un écuménisme qui m'a porté à comprendre qu'il y a aussi le besoin de prier ensemble. Depuis 5 ans, ce centre accueille chaque jeudi, comme je l'ai fait ce matin, des représentants écuméniques. Qu'est-ce que nous faisons ensemble? Nous prions ensemble. Nous mangeons ensemble. Nous avons des conversations. Je dirais que là, c'est un peu le reflet de la mission même du Christ. La nourriture qui rassemble, la prière et la parole qui nourrit, et les conversations qui donnent une orientation à ce que nous avons en commun. Servir le Christ.
Voilà, interrogé par Marie Duhamel, l'archevêque anglican Yann Ernest, qui fut pendant 5 ans le représentant de l'archevêque de Canterbury près le Saint-Siège, était l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver à 13h et je vous souhaite d'ici là une excellente journée.